Bonsoir, meilleurs vœux à tous les publics de ces mardis d'éthique publique, que ce soit vous présents fidèlement au Centre Sèvres, que ce soit toutes celles et ceux qui nous écoutent dans nos relais en région, que ce soit aussi aux auditeurs de RCF qui nous écoutent par la voix des ondes. Notre mardi d'éthique publique premier de cette année 2020, 14 janvier, est consacré à la contestation mondialisée. Hong Kong, Algérie, Liban, Chili, Bolivie, sans oublier la France des Gilets jaunes ou de la réforme des retraites, la liste des pays qui connaissent d'amples mouvements de contestation des pouvoirs établis n'a cessé de s'allonger ces derniers mois. Ces manifestations de masse peuvent être pacifiques, comme le Hirak, le mouvement algérien, dont c'est même la principale caractéristique. Elles peuvent aussi être violentes et ou réprimées avec brutalité, comme à Hong Kong, au Chili, en Irak et en Iran. Dans un entretien accordé au quotidien Le Monde en novembre dernier, le politiste Bertrand Badie a évoqué ces différentes situations comme, ouvrons les guillemets, l'acte 2 de la mondialisation. Et il a plutôt insisté sur les points communs à toutes ces manifestations, le rejet des systèmes en particulier, davantage que sur leur caractère propre spécifique. L'un de ces points communs étant souvent que sur le plan social, c'est une petite goutte qui fait déborder le vase, comme la hausse du ticket de métro à Santiago ou une taxe sur les communications téléphoniques au Liban. Mais ce peut être aussi la résistance à une forme d'oppression, comme à Hong Kong, ou le rejet d'une oligarchie politique incrustée au pouvoir en Algérie et aussi au Liban. Convient-il alors de s'attacher à rechercher le plus grand dénominateur commun de ces divers mouvements, ou leur simultanéité, est-elle le fruit d'une simple coïncidence? Et quel pourrait être leur futur au cours de l'année qui s'ouvre? Extinction ou propagation et contribution à l'accroissement d'une instabilité internationale déjà très préoccupante? Pour nous éclairer sur les événements en cours et apporter de premières réponses aux questions qui se posent, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Philippe Lecor, chercheur spécialisé sur les questions chinoises à la Harvard Kennedy School, à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, aux langues orientales, et à l'Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation à l'ESSEC. Il a publié notamment « L'offensive chinoise en Europe » chez Fayard en 2015 et « Repenser la route de la soie », un ouvrage en anglais chez Palgrave Macmillan en 2018. Et un article de lui paraîtra dans le numéro de la revue Études du mois de février, précisément sur Hong Kong. Joseph Maïla, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de le présenter ici, est professeur de relations internationales de géopolitique à l'ESSEC, spécialiste du Moyen-Orient et de la sociologie des conflits, ancien recteur de l'Institut catholique de Paris et également ancien directeur de la prospective au ministère français des Affaires étrangères entre 2010 et 2013. Vous pouvez lire un article de Joseph Maïla dans la revue Études de janvier sur la situation au Proche-Orient et c'est lui qui ouvre nos débats.
Merci beaucoup Jean-Luc de cet accueil. Merci aussi au Centre d'éthique publique du Centre Sèvres qui organise ce débat ce soir. C'est l'occasion pour moi aussi de vous présenter mes vœux et d'attaquer tout de suite le problème en posant peut-être de manière générale, de manière introductive, la question de cette contestation qui semble effectivement, comme le dit le titre de qui nous est proposé ce soir, la contestation mondialisée. C'est un titre qui est pertinent parce qu'effectivement, comme vient de l'indiquer Jean-Luc, la contestation a lieu un petit peu partout dans le monde. Elle couvre des situations extrêmement diverses, c'est vrai, mais elle couvre à peu près tous les continents, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit l'Afrique, que ce soit le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Irak a été cité, le Liban aussi, et l'Asie, puisqu'on a cité effectivement Hong Kong. On pourrait ajouter dans cette contestation plutôt soft aussi toutes sortes de populismes qui ne sont pas des passages à l'acte immédiat pour le moment, mais qui pourraient aussi remettre en cause, et qui déjà remettent en cause, soit des élites en place, soit des processus, notamment les processus démocratiques. Il est extrêmement difficile donc de couvrir un tel champ de cas sous un chapeau unique en cherchant cherchant une causalité unique. Donc je vais m'essayer dans un premier temps, mais à titre d'hypothèse, je fais l'hypothèse suivante, hein, quitte à ce qu'elle soit attaquée lors du débat, qu'effectivement ces mouvements de contestation dans le monde présentent des attitudes similaires. Hein, des comportements similaires. On peut les ranger sous une rubrique générique similaire, et je vais vous dire laquelle. Mais qu'ils ne se comprennent que sur un fond de mondialisation qui exacerbe des tensions, mais chacun, effectivement, n'est pas directement sur la même trajectoire, ne poursuit pas les mêmes moyens, ne poursuit pas les mêmes objectifs. Donc, spécificité des cas, mais effectivement, il faut les poser sur un fond, sur un arrière-fond, sur un écran, en quelque sorte, de mondialisation, où on va retrouver, bien entendu, des causalités mondialisées ou des contextes, des forces profondes qui favorise un contexte de mondialisation et qui rattache ces mouvements à la contestation mondialisée. Mais effectivement, le titre contestation mondialisée, on a l'impression que c'est la même contestation qui est en fait sortie d'une aire géographique, qui est en train de se disséminer. Donc j'aurai peut-être quelques formulations un peu critiques concernant le titre, mais ça ne change rien sur le fond. Effectivement, quel rapport entre l'Irak et le Chili, quel rapport le Soudan, le Nicaragua, la Bolivie peut-être, où Morales a tenté de faire un quatrième mandat, Bouteflika qui voulait faire un cinquième mandat, auquel on voulait faire un cinquième mandat, et une question comme celle de Hong Kong, où il s'agit véritablement d'une résistance démocratique à un futur que l'on voit autoritaire, ou le Liban, qui effectivement n'a rien à voir avec la mondialisation, puisque, j'aurai l'occasion de revenir sur le Liban, c'est un pays qui est mondialisé depuis longtemps, depuis la moitié du 19e siècle, la moitié des Libanais, il y a 4 millions de Libanais au Liban, il y en a 14 dans le monde, hein, de la descendance ou l'ascendance libanaise. Donc on n'est pas véritablement dans le même contexte. Alors, trois critères pour qu'on puisse avoir ensuite une discussion sur la base d'une espèce de formalisme, et c'est un formalisme, disent les chercheurs, heuristique, hein. Ils cherchent véritablement à faire poser des questions, on ne va pas tout mettre dans le même paquet. D'abord, ce sont des mouvements sociaux. Hein, des mouvements sociaux. Donc quand on dit mouvements sociaux, on dit mouvements de masse, qui est donc manifestation, grève, occupation des places publiques, on va les retrouver dans tous les cas que nous connaissons. Au départ, ils sont toujours pacifiques, hein, c'est de la protestation. Effectivement, ensuite, viennent les contre-manifestants où les pouvoirs publics réagissent, mais au départ, ce mouvement est un mouvement qui se présente comme une revendication exprimant un mal-vivre en société, se préoccupant d'une dégradation des conditions de vie, recherchant un bien-être qui n'existe pas, ou le cas de Hong Kong, c'est directement beaucoup plus un passage aux politiques. La question de la confrontation, elle vient après. Elle vient dans un second temps, mais au départ, il y a comme une espèce de mouvement débonnaire. On peut faire une comparaison avec les Gilets jaunes, avec ce qu'ils étaient au départ, dans leur manifestation, dans leur forme première de protestation, et ensuite, effectivement, une radicalisation gagne une certaine partie, et puis, bien entendu, l'attente infinie ou indéfinie, ouverte, devant des satisfactions à des revendications qui ne viennent pas, peuvent faire passer ce mouvement à la confrontation et à la violence. Mais quand on a dit mouvement de masse, on les décrit effectivement dans leur dynamique, hein, une dynamique qui agrège des citoyens entre eux. J'ai dit le mot. Si on s'en tient simplement au mouvement de masse, à mon avis, on occulte le fait fondamental. Le mouvement de masse, c'est la forme, le fond, c'est le fond citoyen. Ce sont des revendications qui vont se greffer sur une revendication de citoyenneté. Et à cette occasion, on va voir fleurir et on va s'interroger en in fine sur la signification, toute une panoplie de mots d'ordre, hein, d'aucun dirait des concepts, qui au fond ne sont pas directement politiques au premier degré, mais qui expriment des postures citoyennes. Exemple, l'égalité, la dignité, qu'on va retrouver dans les printemps arabes, les droits sociaux élémentaires, le droit à la santé, le droit à l'école, dans des circonstances que nous allons décliner, à l'hôpital, Donc ce sont des mouvements qui sont portés par une éthique citoyenne. C'est ma première hypothèse, que je différencie de l'éthique politique, ce qu'on peut appeler la morale politique, et celle des partis qui veulent changer de régime, qui veulent accentuer un axe dans le régime, et des mouvements syndicalistes qui, eux, sont portés sur des revendications spécifiques. Mouvements de masse, certes, par leur ampleur, mais mouvements citoyens, par la lame de fond, en quelque sorte, la vague profonde qui les porte et qui est un sentiment d'inadéquation, d'injustice, de ne pas recevoir ses droits fondamentaux et d'être mal à l'aise dans une société à deux vitesses ou à trois vitesses. Un sociologue britannique récemment mettait en avant ce concept qui est celui de la différence entre les somewhere et les anywhere, entre une élite mondialisée, qui, elle, se retrouve à l'aise partout au monde, qui circule, qui fait des études à Harvard, qui des stages à Mexico, qui va dans la banque à Hong Kong, et simplement, ils ont une valise, une brosse à dents, ils peuvent circuler et s'adapter partout, parce qu'ils ont les codes. Et puis, les somewhere, hein, ceux qui sont de quelque part, ceux qui sont, nous dirions en France, par exemple, de la ruralité, ou dans la périphérie. Et donc, ça renvoie, au fond, à une égalité citoyenne, certes, qui est postulée, mais qui n'est pas vécue de la même manière et qui ne permet pas, du fait de cette différenciation du code culturel, d'accéder à des biens, de se sentir à l'aise, de pouvoir circuler, etc. D'où, effectivement, la futilité du détail, mais excusez-moi, ce n'est pas futile, une taxe, comme le signalait Jean-Luc Poutier, sur le WhatsApp, libanais, le prix de l'essence au Pérou, au Nicaragua, c'est une question de retraite qui n'arriverait pas à avancer. Il faut véritablement une étincelle qui met le feu aux poudres. Mais d'abord la poudre, ensuite l'étincelle. Donc, résumons un peu cela sur ce mouvement citoyen. Deuxième point qui fait, au fond, la spécificité et l'indétermination, in fine, de ces mouvements. C'est l'improbable relation à la politique. Alors, ce que je constate partout, enfin par comparaison, hein, mais comparaison encore une fois n'est pas raison, c'est au fond qu'il y a une méfiance profonde et une défiance vis-à-vis de la classe politique, du système politique. On ne veut pas faire de politique. Dès qu'il y a un parti qui veut venir s'agréger et en quelque sorte surfer sur la vague de protestation, pas de récupération, pas de leadership. On l'a vu avec les gilets jaunes. On le voit à Hong Kong, bien qu'il y ait quelques chefs qui étaient émergés. Mais je pense que, messieurs, par l'autorité de Philippe Lecor, c'est parce que les médias étaient là et qu'il fallait faire parler des leaders. Il y a eu des leaders. Mais l'intention première, c'est au fond de se fondre dans la masse, de ne pas être récupéré par la politique, de ne pas avoir de leadership. Et, au fond, je fais l'hypothèse là aussi, qu'on est plus mu par le sentiment d'aller ou de vouloir aller vers une société juste que d'aller vers une société idéologique où c'est la gauche, où c'est la droite qui l'emporte, où c'est tel ou tel mouvement politique. Donc ce sont des mouvements qui ne sont pas articulés politiquement, qui ne sont pas canalisés idéologiquement et dont on peut se poser la question de savoir sur quoi ils peuvent déboucher. Parce que nous apprenons à nos étudiants qu'au fond, les partis politiques servent à agréger des demandes, ils articulent des demandes et les portent au champ politique. Là, il y a des demandes, tous les jours, il y en a une, et comme il n'y a pas de centrale idéologique, de leadership, de cellule secrète ou pas secrète qui donne des mots d'ordre, mais on a l'impression que tout cela évolue et là effectivement la question est là, la délégitimation du politique est là, la méfiance est là, tout se corrompu, le dégagisme comme mot d'ordre, hein, partez tous, tout le monde est dans le même sac, il y a cette idée au fond que on pose même pas de l'alternance au régime. On pose même pas la question du régime politique. Ça, c'est un autre mouvement. Le rapport au politique n'existe pas. Il s'agit pas de passer du communisme au socialisme, de la social-démocratie au néolibéralisme. Il n'y a pas de demande qui s'articule de ce point de vue. Il y a un immense coup de balai qui est le dégagisme. Et il y a une troisième caractéristique que j'affectionne beaucoup. C'est au fond que ces mouvements sont portés par un imaginaire absolument incroyable. Si vous allez, je suis pas allé à Hong Kong au départ, mais j'ai pas mal circulé au Proche-Orient, en Afrique du Nord. Je connais le Pérou, la Bolivie. Il y a au départ une espèce de climat débonnaire, bon enfant, une espèce de mai 68 hein, dans la représentation. Et il y a une espèce d'incantation jubilatoire, hein, de tout mettre dans un placard. Il y a une indistinction qui est propre au pré-politique. Hein. Le pré-politique, c'est toujours, allez, on va se retrouver ensemble, on va s'entraider. Un peu le solidarisme des places publiques et des carrefours des gilets jaunes. Hein, où on se retrouve pour partager un repas, pour partager une protestation. Et il y a une espèce même de complaisance dans la jubilation. Et au fond, on n'est pas à l'aise dans cette société qui fait de la ségrégation entre les individus. On est bien dans le cocon du collectif. Et problème aussi, c'est formidable, parce que ça veut dire que quelque part, dans nos sociétés, dans ces sociétés qui sont atteintes par la contestation, il y a le besoin d'un contact, d'une humanité. Hein, d'une solidarité qui s'exprime comme elle peut s'exprimer et qui, bien entendu, va poser le problème qui est pour moi important. Et après, et le jour d'après, c'est quoi ? S'il n'y a pas de leader, s'il n'y a pas de formulation politique, je ne dénigre pas du tout ces mouvements. Je pense au contraire qu'on va retrouver des formes pré-politiques qui peuvent, par exemple pour les sociétés occidentales, essayer de se mettre sur le chemin de l'invention de quelque chose qui irait au-delà de la démocratie représentative. On parle beaucoup de démocratie participative. Est-ce qu'il n'y a pas là un laboratoire d'invention des formes du futur là-dedans? Voilà un petit peu le contexte dans lequel je situe un peu ces mouvements. Je passe à un deuxième temps. J'ai encore combien de temps? Plusieurs dizaines de minutes. Dix. Ah, bon, une dizaine. Le deuxième temps, Jean-Luc m'a demandé de mettre, puisque ça a été mis en exergue un peu dans la présentation au Congo, Algérie, Liban, Chili, Bolivie. Alors, je ne sais pas comment je vais embrasser tout ça, mais je vais peut-être m'attacher aux sociétés arabes, peut-être à l'Algérie, au Liban que je connais un peu, au Soudan, à l'Irak. On peut ajouter l'Iran. L'Iran est absolument passionnante à suivre, mais peut-être que ça, dans les questions, on viendra là-dessus. Alors, on va retrouver des termes spécifiques, et vous verrez que l'idée, au fond, que ce soit l'acte 2 de la mondialisation, je ne suis pas si sûr. Par exemple, tous les processus arabes peuvent se comprendre hors mondialisation. Si on pense à la mondialisation comme ce mouvement de liberté des capitaux, d'une idéologie néolibérale accrue, de libération des marchés, d'individuation, donc de surgissement de l'individu un peu égoïste et qui cherche à maximiser ses profits, on ne va pas retrouver ça dans les sociétés arabes. On ne va pas retrouver ça au Liban, par exemple. Donc moi je dirais que dans les sociétés arabes qui connaissent la contestation, puis je reviendrai sur un peu les autres sociétés, je parlerai de l'Amérique latine et je laisserai Hong Kong à Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays où la contestation est là et où vous voyez que le passage au politique est problématique? La seule contestation réussie qui passe au politique, c'est la Tunisie. Et inutile de chercher, les autres mouvements sont en train de cafouiller, de ne pas passer à des résultats. L'Algérie est un drame absolu dans tout cela. Nous sommes à la 42e ou à la 43e semaine, mais rien n'avance. Et les généraux sont toujours au pouvoir, bien que leur tête, les grands chefs, notamment avec la mort de Gaït Salah, qui tenait le régime algérien, qui est mort le 23 décembre, qui était le grand chef, est disparu, mais le pouvoir des généraux est toujours là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans des sociétés arabes qui contestent? La première raison qui permet de tenir aussi un fil rouge conducteur, c'est au fond que ces sociétés sont en train de connaître maintenant et maintenant seulement, mais maintenant c'est en 2011 que ça commence, les printemps arabes, au fond, des résultats d'une quarantaine d'années d'indépendance qui ont été un échec. c'est les promesses non tenues des indépendances qui viennent après l'échec parfois de la décolonisation, je pense à l'Algérie, qui viennent montrer au fond que tout le logiciel de ces pays qui accèdent à l'indépendance dans les années 60, au fond, ne tient plus la route. On parle de révolution et on finit en oligarchie, je parle des pays arabes, donc il y a une oligarchie. On parle de socialisme de manière indistincte et on voit une élite extrêmement riche. On considère qu'entre 1 et 10%, ça dépend des sociétés, dans le monde arabe, de 1% de la population, 10% au maximum, détiennent au-delà de 30%, entre 30 et 50% de la richesse. Disons, la moyenne c'est de 10% de la population est au-delà de 40% de détention de la richesse. On parle de socialisme et on finit en oligarchie. On parle de révolution, d'indépendance, on finit en régime militaire. On parle, parce que ça fait partie du logiciel arabe, de libérer la Palestine et de restituer la grandeur de la nation arabe. C'est un peu le discours. Et le résultat des cours, c'est effectivement Israël progresse, Israël est là, la question palestinienne est totalement enlisée et rien de ces promesses. Donc un effondrement des promesses et donc une perte de légitimité de ces pouvoirs. Et simplement, je vous rappelle, Ben Ali part en janvier 2011, 2012. La révolution commence en décembre 2011 en Tunisie. Ben Ali s'en va, est contraint de partir plutôt le 14 janvier 2012. Moubarak part en 2012. Ben Ali était au pouvoir depuis 1987 et part en 2012. Je vous laisse calculer. J'ai pas la rapidité du calcul. Moubarak arrive en 80, il part en 2012, 32 ans. Kadhafi s'en va le 11 mars, la révolution libyenne. Kadhafi, c'est le 1er septembre 1969. 40 ans de pouvoir absolu. Le général Omar al-Béchir, qui est tombé au Soudan là au mois de mars dernier, était arrivé en 1989, il part en 2019. Donc on va avoir des systèmes dont le manque de résultats, l'autoritarisme, la répression, les geôles, les prisons de ce monde arabe, les immenses prisons de ce monde arabe, finalement tout cela s'écroule, tout cela s'érode, la crise de légitimité est là, le régime ne peut plus se justifier par aucune réalisation d'aucune sorte, politique, économique, droits de l'homme, Palestine, unité du monde arabe, on n'en parle plus, c'est un échec total. Et vous vous souvenez, on parlait de l'exceptionnalisme arabe, on disait, comment se fait-il que dans ce monde où tout le monde passe à la transition politique, le monde arabe, lui, reste sur cet exceptionnalisme? Ben non, l'exceptionnalisme a éclaté, puisque depuis 2011, la Tunisie a lancé le train de réforme et de changement. Il y a deuxièmement la crise économique, parce qu'on a affaire à des régimes dont les plus riches ont profité de la rente pétrolière, c'est des États rentiers, je pense à l'Algérie, je pense à la Libye, je pense à l'Irak, qui étaient des sociétés qui n'avaient pas besoin de travailler, l'argent rentrait. Et puis il y a la crise du pétrole, il y a le fait que l'argent du pétrole a servi à la fortune de certains, l'argent du pétrole avait quelque chose de bien, c'est qu'il subventionnait l'économie. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de subventions, le pain, la viande, les légumes, tout cela flambe. Donc la crise économique, et puis je ne vais pas beaucoup m'appesantir, mais je vous le signale, impossible de comprendre tout cela, c'est pour cela que l'acte 2 de la mondialisation, ça reste à voir, le contexte épouvantable, régional, géopolitique, les guerres israélo-arabes, la crise sunnite chiite, le mouvement de surgissement de l'islamisme, les frères musulmans, Daesh, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité peut-être, un mouvement terroriste revendique avec succès la création de l'État du califat, en supprimant quasiment les frontières entre l'Irak et la Syrie, et en prenant le pouvoir en Irak, et en menaçant le pouvoir en Syrie. Et à l'époque on disait, Abou Bakr el-Baghdadi, qui a été tué par le commando envoyé par Monsieur Trump, disait: j'ai aboli la fameuse frontière Sykes-Picot. la région Sykes Picot, le français François-Georges Picot et l'anglais Mark Sykes, Sir Mark Sykes, avaient fait les frontières entre toute cette région du Proche-Orient, Palestine, Syrie, Irak, Jordanie, voilà. Et on abolit et on crée un État créé par des mouvements, un mouvement terrible. Donc, déconfiture de cette légitimité qui devient une légitimité terroriste, une légitimité islamiste et qui s'effondre et le monde arabe continue à se battre. Sans doute le cas le plus emblématique, c'est celui du Liban. Parce que le cas du Liban, au fond, c'est celui d'une société qui avait tant bien que mal, et parfois mal plutôt que bien dans les dernières années, réussi à survivre dans un contexte de participation des chrétiens et des musulmans au pouvoir. Elle avait aussi créé une économie libérale. Le Liban, c'était la banque. C'était la banque du Proche-Orient, avec un système libéral extrêmement ouvert, alors que partout il y avait un contrôle d'échange et des pouvoirs qui se réclamaient du socialisme. C'était un pays ouvert sur l'Occident. Et voilà que tout cela disparaît d'un seul coup. Nous sommes en train d'assister à une faillite d'État. Faillite économique où les banques s'effondrent. Faillite politique où les élites sont rejetées en masse. Ça, c'est une autre distinction intéressante. Le grand slogan de la révolution libanaise, c'est « tous », cela veut dire « tous ». C'est le slogan du dégagisme. Tout le monde doit partir. Nos amis algériens utilisent un autre slogan, c'est « dehors, va ». Va dehors. Enfin, mais va, c'est le collectif des politiciens et des généraux. Et bien entendu, c'est l'idée, au fond, de la révolution tunisienne, en français, dans le texte, dans un pays arabe, dégage, hein, qui est utilisé par beaucoup de mes confrères et beaucoup d'amis que je vois qui sont anglophones de culture et qui disent, mais c'est dégage. Hein. Donc le mot français, dégage, est devenu un mot arabe aujourd'hui. C'est devenu un mot du vocabulaire politique, journalistique du monde arabe. Et l'Algérie, c'est un peu la même chose, mais avec une armée qui résiste. L'armée soudanaise a été extrêmement intelligente devant le mouvement de contestation. Elle a lâché Omar al-Bashir, qui recherchait en exercice, qui était en exercice, et qui était le seul président en exercice recherché dans le monde par la Cour pénale internationale pour génocide et crimes de guerre, au Darfour notamment. Donc elle le lâche, et en Irak, on a le même mouvement de contestation. Ce qui est extrêmement symptomatique et encourageant, c'est qu'au Soudan, en Irak, en Algérie et au Liban, les critères ou les clivages confessionnels sont en train de sauter. On redécouvre au fond que les politiciens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, berbères ou arabes, soudanais du nord, c'est-à-dire arabes, et soudanais du sud, c'est-à-dire sub-africains, donc noirs du sud soudanais, au fond, pas du Sud qui a pris son indépendance, mais du Sud-Soudan, sont des personnes qui sont en train de dépasser le clivage. On dirait que la même catastrophe économique, la même réduction à la misère, a fait passer derrière, hein, en arrière en quelque sorte, rejeter les clivages économiques et ethniques au profit du « mais nous sommes tous Algériens ». Au début, le pouvoir en Algérie réprimait les drapeaux berbères. Maintenant, aujourd'hui, dans les contestations, les drapeaux font leur apparition. Les Irakiens disent « nous ne sommes pas chiites, nous ne sommes pas sunnites, nous sommes irakiens ». Et pour la première fois dans l'histoire du Liban, qui est connue pour la coexistence de ces 18 communautés, on parle d'une nation libanaise. Alors, comment terminer très rapidement sur une dernière conclusion de manière générale. Je crois que ces mouvements de contestation arrivent dans un contexte mondialisé de régime néo-autoritaire, une philosophie néolibérale, mais va toucher plutôt l'Amérique latine, où la remise en cause, par exemple, de Piñera étant le président chilien, le président Piñera est évalué en fortune personnelle par Forbes à 2,5 milliards de dollars. Le premier ministre libanais Mikati est évalué avec son frère à 5 milliards de dollars. Donc on a affaire à une oligarchie qui effectivement a bénéficié de ce climat, hein, de ce climat de fortune générale. Mais on a affaire en face, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus, à ce que j'appellerais un citoyen global. De plus en plus, plutôt que, parce que nous sommes sortis de l'âge idéologique, hein, communisme, tout ça, aujourd'hui capitalisme, on n'est plus là-dessus. On passe à un individu global qui recherche d'abord la satisfaction de ses besoins de base. Hein. Il ne va pas se battre pour changer de régime politique, il va se battre pour assurer ses conditions de vie, l'éducation, les hôpitaux, tout cela dans un contexte de mercantilisation, de privatisation. Alors, je ne parle pas de privatisation dans des pays occidentaux, je termine dans deux minutes, mais je parle de privatisation dans un contexte de pays du tiers-monde. Qu'est-ce que ça veut dire privatiser la misère? Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Deuxièmement, de défiance vis-à-vis du politique. Alors ça, effectivement, c'est généralisé. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais à quelque chose dans l'heure est bon, cette défiance vis-à-vis de la classe politique traditionnelle, corrompue, etc., permet de reconstruire les identités sur la base. Et puis, troisièmement, la non-violence. Le propre des changements dans les pays du tiers-monde, notamment, c'était les putschs, les coups d'État militaires, les guerres civiles. Et là, on voit les jeunes qui n'ont aucun goût pour la violence, les femmes admirables. Hein. Au Liban, quand il y avait des manifestations et que l'armée s'avançait, on s'arrangeait, les jeunes s'arrangeaient pour mettre les femmes au premier rang, de telle sorte que l'armée n'osait pas s'attaquer à eux. Au Soudan, les femmes étaient sur Facebook pour repérer les matraqueurs dans la police et dans l'armée, et diffuser leur image et dire « Vous connaissez ce monsieur ?» Et on allait voir les familles, en disant « C'est pas bien que votre fils matraque mon fils. » Ça, c'est une innovation de ce point de vue. Et donc tout cela, effectivement, pour moi la grande question, mais on en fera une question de débat, c'est où on va avec ça, sans leadership, sans parti politique. La contestation est un acte, un sursaut citoyen. Mais est-ce que le sursaut citoyen est suffisant pour bâtir la cité citoyenne, c'est-à-dire l'organisation politique de la citoyenneté? Merci, excuse-moi.
Merci à Joseph Maïla pour cette mise en perspective générale, je n'ose pas dire globale, et également pour les coups de projecteur qu'il a commencé à donner sur un certain nombre de cas particuliers et notamment le monde arabe. Je rappelle pour nos auditeurs de RCF que donc ils sont à l'écoute du mardi d'éthique publique du Centre Sèvres consacré ce soir 14 janvier à la contestation mondialisée. Et je passe maintenant la parole à Philippe Lecor pour qu'il évoque un des lieux où cette contestation a peut-être commencé. Enfin, l'Algérie a peut-être commencé un petit peu avant, mais en tout cas, Hong Kong est un des lieux qui a été leader dans ce mouvement de masse contre les pouvoirs établis. Et Philippe Lecor, donc, vous avez la parole pour nous parler de Hong Kong et peut-être aussi, si j'ai bien compris, un peu de Taïwan.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc et merci de votre accueil. Ravi de revenir ici après de longues années puisque j'ai été à l'étranger pendant maintenant 6 ans et très honoré d'être à la même table que le professeur Maïla qui nous a fait un tour d'horizon absolument remarquable que je serais bien incapable de faire. En revanche, effectivement, je crois que le cas de Hong Kong est intéressant, et si je peux me permettre une comparaison, en 1989, c'est-à-dire il y a presque 30 ans, on a beaucoup parlé du mouvement de Tiananmen, et qui a un petit peu été le déclencheur d'une année absolument incroyable, qui était l'année 1989, qui a donné lieu à la chute du mur de Berlin, à tous ces régimes qui ont finalement périclité suite à ce qu'on appelait la révolution, voilà, de, de l'Europe de l'Est, qui avait démarré en Chine, mais d'une certaine manière qui s'est également en Chine, c'est finalement pas passé grand chose à la fin de l'année, puisque entre temps, le Parti communiste chinois avait repris les choses en main et une chape de plomb s'était refermée sur ce pays. Et on peut dire que les Chinois s'en souviennent encore, y compris d'ailleurs les dirigeants du Parti communiste chinois, dont je vais vous dire quelques mots pendant les prochaines minutes. Alors, Hong Kong, pourquoi parler de Hong Kong ? Parce qu'effectivement, en 1997, certains d'entre vous s'en souviennent, c'était la rétrocession de Hong Kong. C'est-à-dire que Hong Kong, colonie britannique pendant 150 ans, est passé du statut de colonie britannique à celui de région administrative spéciale chinoise, suite à des négociations qui ont duré longtemps, et notamment la déclaration conjointe sino-britannique de 1984. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de l'image de Margaret Thatcher trébuchant sur les marches du Grand Hall du Peuple à Pékin, qui signait un petit peu la fin de l'Empire britannique et effectivement, pour Hong Kong, faisait entrer ce territoire dans une phase nouvelle. Alors, ceci dit, cette rétrocession, elle n'a pas été aussi claire que cela. Et en 1997, Hong Kong, c'était la septième puissance commerciale du monde. Et il y avait une sorte de consensus sur le fait que l'économie hongkongaise marchait bien, elle était plus ou moins imbriquée avec le sud de la Chine, les Hongkongais avaient investi dans le sud de la Chine, les Chinois du continent commençaient à investir dans la région administrative spéciale, enfin en tout cas ou la colonie dans les dernières années, et je dirais en dépit de ces événements de Tiananmen dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'effectivement, Tiananmen, ça a été, donc, le 4 juin 1989, un détonateur pour beaucoup de Hongkongais, un détonateur politique, une prise de conscience véritable de leur avenir, de l'état des choses, de l'état des lieux en matière politique. Et effectivement, lorsqu'on a été une colonie, un peuple colonisé pendant si longtemps, lorsqu'on est parfois arrivé à la nage de Chine du Sud, voire d'Asie du Sud-Est, eh bien évidemment, j'en reviens à ce que vous disiez, Joseph, les questions d'identité et de citoyenneté deviennent peut-être secondaires. Et donc la question, c'était, en 1997, Hong Kong va-t-elle rester une cité économique ? La Chine va-t-elle être finalement une partie intégrante de la Chine et aider la Chine, contribuer à la marche en avant de la Chine et l'entrée de la Chine dans l'arène mondiale ? Et moi, j'avais posé un certain nombre de questions dans un livre à l'époque qui s'appelait « Après Hong Kong » sur l'avenir de Hong Kong, et la question était déjà... quel va être le degré d'autonomie ? Est-ce qu'on va se contenter de ce qui est marqué dans la déclaration sino-britannique, dans la loi fondamentale, ou est-ce qu'il y a une marge de manœuvre autour de ces textes, et enfin, quelle va être l'évolution économique, sociale, sociétale de cette société qui était extrêmement prospère, mais qui était déjà très inégalitaire. Donc sous les Britanniques et ensuite sous le régime chinois. Alors ensuite, il y a eu un certain nombre de dates que je vais rappeler très rapidement, mais qui à chaque fois ont été une sorte d'épine dans ce mariage un peu forcé entre les 7,5 millions de Hongkongais et le régime chinois. D'abord, il y a eu en 2003 ce qu'on a appelé l'affaire de l'article 23, c'est-à-dire que le régime chinois, enfin l'administration de Hong Kong, hein, qui est dirigée par une sorte de potiche qui a été nommée par un comité de personnalités désignées par le régime chinois, avait décidé de lancer l'idée d'un nouveau texte sur la subversion qui permettrait à la Chine en fait d'envoyer directement à Pékin toute personne défiant le régime chinois. Bon, ça n'était pas passé à l'époque, on était en 2003, on était encore trop proche peut-être peut-être de la rétrocession. Ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement des parapluies en 2014. Donc, le mouvement des parapluies, c'était un petit peu basé sur Occupy Wall Street, vous savez, ce mouvement d'occupation de Wall Street, qui avait pour le coup un côté revendication anticapitaliste. Donc là, j'en reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que dans cet aspect de contestation, il y a une contestation du capitalisme. C'était un petit peu le cas, mais c'était quand même principalement un mouvement politique. Et l'idée, c'était de s'adresser aux autorités chinoises, qui étaient donc les nouveaux maîtres à bord depuis 1997, et de leur dire, voilà, vous avez promis un certain nombre de choses, vous avez promis l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel direct, vous avez promis l'élection du conseil législatif également au suffrage universel. Donc il faut que vous le fassiez. Et donc ça n'a pas marché finalement pour ce mouvement. Et ce mouvement avait choisi d'être localisé dans un endroit très précis, au centre de Hong Kong, ça s'appelle Central d'ailleurs, enfin au bord de la baie de Hong Kong. Et finalement ce mouvement s'est décomposé pour différentes raisons et tout simplement les leaders ont été arrêtés. Enfin je pense qu'ils n'ont pas démérité, mais les leaders de ce mouvement, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a eu une sorte de lassitude. Alors que là, depuis 2019, c'est tout à fait autre chose qui se passe. C'est-à-dire que c'est une sorte de chaudron qui était prêt à exploser et qui a été un petit peu provoqué d'abord par un harcèlement, je dirais, permanent du Parti communiste chinois sur la population de Hong Kong. Je parle des citoyens de Hong Kong d'origine, ceux qui étaient déjà là en 1997, parce qu'il faut savoir qu'il y a 150 personnes de Chine qui arrivent à Hong Kong depuis les années 80, donc depuis même avant la rétrocession. Donc ça fait 1 million de personnes, en gros, plus d'un million qui ont rejoint la population de Hong Kong. Donc il y a une surpopulation, il y a une densité extrêmement importante. Et donc tout ça a contribué à une sinisation. Alors, le mot est impropre parce que les Hongkongais sont également des Chinois, mais j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est justement un des sujets. Mais la sinisation, elle s'est faite sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan boursier, sur le plan militaire, parce qu'il y a eu une présence militaire chinoise très importante dans le territoire de Hong Kong. Et puis, bien sûr, sur le plan politique, puisque les différents chefs de l'exécutif qui ont été nommés, comme je le disais, par la Chine, étaient tous plus ou moins inféodés et continuent de l'être, évidemment, au régime chinois. Alors, ce mouvement, il a démarré donc au printemps 2019, suite à un certain nombre de choses qui se sont passées, arrestations de libraires, de personnalités dissidentes, etc., d'éditeurs qui ne plaisaient pas au régime, mais surtout parce que Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, a décidé suite à un fait divers, un meurtre qu'il y a eu à Taïwan d'une jeune Hongkongaise par son compagnon qui lui est rentré à Hong Kong. À la suite de ça, le gouvernement de Hong Kong a dit voilà une bonne opportunité pour mettre en place une nouvelle loi sur l'extradition, puisqu'il n'y a pas de loi sur l'extradition ni vers Taïwan ni vers la Chine. Et là, les Hongkongais, qui finalement, le mouvement ne demandait qu'à se réveiller, se sont dit, là, ça n'est pas possible. Parce que extrader des Hongkongais vers la Chine, je passe sur le fait qu'il y a eu des kidnappings à Hong Kong, en Thaïlande, dans différents pays de citoyens de Hong Kong qui ont été ensuite envoyés en Chine en toute illégalité, ce qui a contribué à mettre des braises sur le feu. Mais là, ce texte, ça n'est pas passé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dès le mois de juin, 1 million, 2 millions de personnes dans les rues, un mouvement absolument incroyable, pacifique, en tout cas jusqu'au 1er juillet 2019, qui correspond donc à l'anniversaire, 22 ans de région administrative spéciale chinoise. Et là, évidemment, on est un petit peu basculé dans la violence, c'est-à-dire qu'il y a eu les manifestants, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. j'en reviens à ce que vous disiez, sont entrés dans le Conseil législatif, ont cassé des vitres, ont détruit le mobilier, et là, évidemment, comme par hasard, la Chine, les médias chinois se sont mis à diffuser ces images et à montrer du doigt un mouvement qui était devenu violent. Et alors, ce côté violent, il faut quand même l'analyser. Il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été écrits par des militants qui justifient la violence par le fait qu'ils font face à la Chine. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes hongkongais contre le régime du Parti communiste chinois dirigé par M. Xi Jinping depuis maintenant 2012 ? Je pense que les Hongkongais savent, d'une part, ils sont d'ethnie chinoise, ils n'ont pas une connaissance historique de la Chine, puisqu'ils ont été éduqués dans une région à part, mais ils ont quand même la connaissance de leurs parents, de leurs grands-parents, souvent des réfugiés. Ils font partie de ce monde sinisé, et donc, d'une certaine manière, l'espoir de devenir une démocratie, de devenir indépendant, est assez limité. En tout cas, pour l'indépendance, je pense que ce n'est même pas la peine d'y penser. Et d'ailleurs, ce n'est pas une revendication. Les 5 revendications de ce mouvement aujourd'hui, puisqu'on se retrouve, maintenant en janvier 2020, le mouvement continue, il y a eu de nombreuses étapes. Il y a eu des occupations d'universités, il y a eu des élections locales, raz-de-marée en faveur des partis démocrates, 17 conseils de district sur 18. Et il y a eu le soutien des États-Unis, puisqu'il y a eu un acte sur la démocratie et les droits de l'homme du Congrès américain qui a été voté unanimement par le Congrès, qui a été ratifié par le président Trump. Ce qui a apporté de l'eau au moulin de la propagande chinoise, disant, regardez, ce sont les Black Hands, ce sont les gens qui sont derrière, ça ne peut pas être des citoyens de Hong Kong qui manifestent, ce sont forcément des étrangers derrière, des journalistes, des organismes de droits de l'homme, des fondations étrangères qui arrivent avec leurs valises de dollars. Tout ça est une affabulation totale. Et le fait qu'il y ait eu des contacts entre les diplomates, entre quelques diplomates et le mouvement de Hong Kong, n'a rien à voir et personne n'est capable de faire descendre, en tout cas surtout pas à Hong Kong, 2 millions de personnes dans la rue, y compris les États-Unis. En revanche, ce qu'il faut noter sur la sociologie de ce mouvement, c'est qu'effectivement, ce sont des manifestants très jeunes, jusqu'à 12 ans, 11 ans, que ce sont des gens qui sont touchés par les problèmes sociaux, les inégalités qui sont réelles à Hong Kong. Et là, on en revient au cœur du sujet, c'est-à-dire que, effectivement, l'immobilier est aux mains d'une dizaine de familles de Hong Kong depuis très longtemps. Déjà depuis la période coloniale et que ce système a été, si vous voulez, basculé sous le règne de la Chine et que ça n'a pas avancé. Et comme la prospérité économique n'est plus au rendez-vous, contrairement à la Chine où la croissance est toujours de 6,5% officiellement beaucoup moins, si vous voulez, les Hongkongais se retrouvent dans une situation de fragilité et cela mène à ce jusqu'au boutisme. Alors, je crois que les Hongkongais, tout simplement, ils veulent que l'accord de 1984 soit appliqué. Donc, ils revendiquent l'élection du chef de l'exécutif et du LegCo au suffrage universel. Ils souhaitent qu'il y ait une commission d'enquête sur les violences policières, ce qui est tout à fait légitime, étant donné que, alors on parle ici des violences policières en France, mais alors, je ne sais pas si vous avez vu les images de ce qui se passe à Hong Kong. Ce sont, enfin, les jeunes manifestants qui sont quasiment à main nue font face à des sortes de martiens entièrement équipés avec des gaz lacrymogènes, avec des armes, avec des bâtons, mais absolument intouchables et qui font preuve d'une brutalité absolument jamais vue. Donc je pense qu'effectivement ça a apporté disons encouragé aussi la violence et les manifestants de ce mouvement qui ont pour philosophie un principe qui leur vient de Bruce Lee, la star du kung-fu, c'est soyez de l'eau, be water, c'est-à-dire dispersez-vous d'une manière tout à fait stratégique pour qu'on justement on vous attrape pas. Faites le contraire du mouvement des parapluies de 2014 qui a donc échoué. Et on est là en 2020, ça continue et ils ont été aidés les Hongkongais par Madame Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan, qui a été réélue à une très large majorité, 57%, il y a deux jours. Et comme vous le savez sans doute, Taïwan est une république autonome, même si elle est revendiquée par la Chine, et la Chine considère Taïwan comme une province chinoise. Mais à force de tenter d'infiltrer Taïwan à travers Internet, à travers ce qu'on appelle maintenant dans mon université le sharp power, c'est-à-dire l'infiltration politique, disons, c'est plus le soft power. Le soft power, ça a moins en moins de sens, surtout dans le cas de la Chine. Il n'y a rien de soft. Si peut-être le thé au jasmin et la cuisine chinoise très délicate. Mais si vous voulez, c'est très intéressant que ces deux territoires qui se trouvent à la périphérie de la Chine, alors qu'on se trouve face à une Chine de plus en plus ambitieuse, qui trace ces nouvelles routes de la soie, One Belt, One Road, et qui a maintenant des ambitions économiques, diplomatiques, militaires, culturelles et sociétales, on se trouve finalement dans une situation où les territoires les plus proches, ethniquement, culturellement, on parle chinois à Hong Kong et à Taïwan. On dit souvent qu'on est plus chinois à Taïwan qu'en Chine, parce que il y a des gens qui sont venus de Chine il y a très longtemps, en 1949, qui y sont restés. Donc ce sont leurs enfants qui sont toujours là. Et puis il y a des traditions chinoises à Taïwan qu'on ne trouve pas. Et puis vous avez les Hongkongais qui sont finalement des citoyens d'ethnie chinoise, mais qui considèrent qu'ils ne sont pas chinois. Qui disent, voilà, nous, on est Hongkongais, on a notre histoire, notre culture, on a été colonisés, on est pour le libéralisme, et puis on est pour les libertés. Et non, les libertés, liberté de manifester. Tous les ans, le 4 juin 1989, on se réunit à Victoria Park pour commémorer le massacre de Tiananmen, et on est pour la liberté de la presse, on est pour la liberté de réunion, de publier, toutes sortes de choses qui ne se font pas en Chine, voilà. Et surtout, on est pour un système judiciaire indépendant. Et ça, c'est inscrit dans la déclaration conjointe de 1984. Donc ça, si vous voulez, c'est le problème. On veut leur enlever quelque chose, on veut leur enlever toutes ces choses, je dirais, mais en particulier l'autonomie du système judiciaire qui est écorné d'année en année. Donc je pense que ça, les Hongkongais ne l'acceptent pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant que Madame Tsai a été élue, bon, ça c'est pas tout à fait le même endroit. Donc bien entendu, la Chine d'une certaine manière, ce sont des épines dans le pied de Monsieur Xi Jinping, à la fois Hong Kong et Taïwan. Ce qui est très compliqué pour un leader nationaliste qui finalement se revendique comme le nouveau Mao. Il a récemment remplacé le représentant de la Chine à Hong Kong. Il a mis quelqu'un de beaucoup plus dur, beaucoup plus qui a déjà dirigé deux provinces chinoises, Monsieur Liu Huining. Et puis maintenant, il va falloir convaincre les Hongkongais qu'ils sont chinois et que la Chine peut leur apporter des bénéfices, ce qui est loin d'être facile. Alors, on se dit qu'il y a peut-être, alors ils ont ce grand projet de baie, la grande baie entre Hong Kong et le sud de la Chine. Mais jusqu'ici, l'intégration de Hong Kong dans cette grande baie, moi je la qualifie de dilution. Et non pas d'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, elle a servi, Hong Kong a servi un petit peu de poule aux œufs d'or qui finançait ces infrastructures dont beaucoup étaient totalement inutiles, des ponts, des tunnels, des aéroports, alors qu'il y a déjà suffisamment d'aéroports, et des voies ferrées. Je crois que la voie ferrée entre Hong Kong et Canton est la plus chère du monde. Alors qu'il y en avait déjà une, et donc tout ça fait que de ce côté-là, c'est un petit peu compliqué, ces infrastructures, etc. En revanche, on entend parler de plus en plus d'une proposition chinoise qui consisterait à permettre aux Hongkongais, dont beaucoup sont au chômage, puisque l'activité économique à l'intérieur de Hong Kong est clairement ralentie, un peu aussi à cause de ce qui s'est passé depuis 6 mois, c'est d'ouvrir le marché de l'emploi en Chine à ces jeunes en particulier, qui sont ultra diplômés. Vous avez 7 universités à Hong Kong qui produisent d'excellents sujets, à tel point qu'il y avait d'ailleurs beaucoup, il y a toujours des étudiants de Chine continentale qui viennent à Hong Kong dans ces universités, mais ces étudiants ne trouvent pas de travail. Donc il y a des aspects économiques à ce mouvement de Hong Kong, il ne faut pas le nier, même si, je dirais, le fond, le contexte de ce mouvement, il est sans doute différent du Liban, du Chili, de la Bolivie, de tous ces cas qu'on a évoqués, parce que c'est, si vous voulez, ce peuple un petit peu frustré qui est celui de d'un peuple colonisé finalement, qui se dresse un petit peu. Il y a un côté village d'Astérix face à l'Empire romain, et en même temps, c'est vrai qu'on a quand même remarqué que la Chine n'avait pas envoyé la troupe comme elle l'a fait en juin 89, parce que ce serait sans doute condamner Hong Kong en tant que place financière, en tant que ville cosmopolite. On voit déjà un certain nombre d'hommes d'affaires, et notamment de financiers, se déplacer vers Singapour. Hong Kong reste un lieu unique géographiquement, culturellement. Il y a quand même une date tout à fait importante à noter, c'est celle de septembre 2020, avec des élections au Conseil législatif. Et donc je pense que la Chine, je le dis à voix basse, mais je pense qu'elle est en train d'étudier cette situation qui est quand même inextricable, parce que elle a réussi à dresser contre elle une grande majorité de la population de Hong Kong, toutes générations confondues, et sans parler de ce Taïwan. Et donc Hong Kong, qui bénéficie d'une aura internationale et médiatique tout à fait particulière, du fait de sa connaissance des langues, notamment l'anglais, et d'une certaine expérience. Hein, on se souvient de 97, c'était la face du monde avait changé. 97, c'était on basculait dans le siècle chinois. Alors il y a encore des gens qui parlent de ce siècle chinois pour d'autres raisons, mais en tout cas, Hong Kong n'a pas été un modèle. C'est plutôt, si vous voulez, Hong Kong est devenu de plus en plus chinois, et la Chine est devenue de moins en moins hongkongaise. Et donc ça, c'est évidemment, je vous laisse avec ce commentaire, parce que je pense que c'est un petit peu triste que la Chine, qui était dans une phase d'ouverture qui a duré 30 ans, se referme de plus en plus politiquement, que les libertés soient de moins en moins respectées. Et Hong Kong, petit rocher, pas si petit que ça, mais quand même à l'échelle de la Chine, il l'est, au sud, arrive à faire entendre ce que j'ai appelé dans l'article que vous avez l'amabilité de rappeler, Jean-Luc, dans Études, dans 2 semaines, une voix démocratique en Chine, qui est quasiment unique aujourd'hui sur le territoire chinois, surtout à travers son retentissement. Parce qu'il y a d'autres sujets, bien entendu, comme le Xinjiang et le Tibet, qui sont des cas différents, mais les citoyens de ces territoires n'ont pas le même moyen de répercuter leurs revendications. Voilà, je reste là.
Merci à Philippe Lecor pour cet approfondissement sur Hong Kong dans le cadre de ce débat de ce soir sur la contestation mondialisée pour le mardi d'éthique publique du Centre Sèvres. En une phrase, Joseph Maïla, Hong Kong, ça confirme plutôt les similitudes ou plutôt les différences entre tous ces mouvements?
Écoutez, ça confirme l'immense majorité des similitudes. Il y a entendu la différence qui est au fond que nous avons... ça confirme les similitudes, mais avec une différence essentielle, on a affaire à une société qui se bat pour rester démocratique, quelque part, hein, pour résumer tout ce qu'a dit brillamment Philippe Lecor. Et il y a, Hong Kong est aussi symptomatique d'autre chose. Les mouvements de contestation mondialisés sont des mouvements proto-démocratiques. Hein. On va vers des formes de démocratie, de protestation, dans un monde qui est le monde de Xi Jinping, de Poutine, d'Erdogan, comment s'appelle le président de la Hongrie, dont j'ai oublié le nom.
Viktor Orban.
Donc, on a des mouvements, effectivement, d'ouverture qui pont, qui à la base, et en même temps maudits maintenant en Inde avec cette fermeture de la citoyenneté indienne sur la religion hindoue, espèce de congruence qui est postulée. Et on est dans un monde en pleine recomposition, mais avec bien malin celui qui peut dire où est-ce qu'on va. On va vers du durcissement, et au contraire, les contestations, quelque part, c'est rafraîchissant. Il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup intéressé, sur la jeunesse de Hong Kong. La jeunesse de Hong Kong souffre des mêmes maux que la jeunesse mondialisée de la contestation. Chômage, mais il était beaucoup moindre, mais c'est vrai qu'il s'abaissait, je veux dire, la croissance à Hong Kong, ce n'était pas la croissance chinoise. Et deuxièmement, les appartements. Je ne peux pas me marier, j'ai pas de travail. Je ne peux pas me marier, je n'ai pas de quoi louer un appartement. Je veux dire, c'est le cas du Liban, c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de Hong Kong. Il y a des similitudes. Alors je voudrais pas forcer hein, sur. Je préfère garder à chaque cas sa spécificité et que on ait en arrière-fond le contexte mondial.
En tout cas, merci à vous deux d'avoir éclairé toutes ces questions et de nous laisser le soin de suivre dans l'année qui vient, dans l'année qui s'ouvre, l'évolution de tous ces événements. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, un micro va maintenant circuler. Je ne sais pas si... je serai aussi habile à faire circuler la parole que François Hevé, qui vous prie d'excuser son absence ce soir, puisque normalement c'est la partie qui l'anime, et où il prend les questions 3 par 3. Donc je vais suivre le bon exemple.
Est-ce que derrière...
Oui, c'est bon.
Est-ce que à la base de tous ces mouvements, il n'y a pas le changement technologique d'Internet et du téléphone portable?
Ensuite, merci.
Je voulais absolument parler du problème de Macao. On n'en parle pas, Macao ça bouge pas. Quelle explication vous donnez?
Merci. Une troisième question. C'est bien de poser des questions brèves.
Bonsoir, merci pour la qualité de la délibération. Et après, effectivement, la question de M. Maïla est importante parce que, on peut dire que nous menons au score, nous avons la paix, mais c'est pas parce qu'on mène au score que le match est jamais gagné. Et il faut certainement continuer à cultiver les liens. Alors, quels liens? Parce qu'il y a la question œcuménique. Et 18 religions au Liban, bon, peut-être 8 civilisations dans le monde en réalité. Et on peut remercier d'ailleurs Bachar el-Assad, Vladimir Poutine, après quand même des années qui ont été terribles et avec quand même des difficultés stratégiques ici. Il y a la question effectivement du lien politique que vous avez évoqué, avec quand même besoin de professionnalisation de la politique. Bon, le quadripartisme marche bien, mais c'est vrai qu'il y a le G7 s'est bien passé, la rencontre de l'OTAN aussi, mais c'est vrai qu'il y a la question du statut des États-Unis, du Canada par rapport à l'Europe. Il y a la question du lien familial, de la mixité. Quelle mixité dans l'Église, quelle mixité dans la famille, quelle autorité? Quelle mœurs? Et la question du travail. En ce moment, on en parle beaucoup de la réglementation. Mais pour poser la question spécifiquement sur l'Église, qui a quand même une responsabilité sur le référentiel des valeurs, quel levier? Est-ce qu'on va vers une Église plus synodale, moins cléricale? Enfin, qu'est-ce que...
Alors, ce n'est pas tout à fait notre sujet, même si nous pourrons y faire allusion. Alors, je vous propose de répondre déjà à ces 3 premières questions. Joseph, la technologie.
Alors, sur le synode, je serai moins pertinent sans doute, donc je vais rester au portable et à WhatsApp. Écoutez, oui, effectivement, là, l'effet miroir hein, de sociétés qui se regardent dans le monde, hein, n'importe quel moment, vous mettez votre télévision en marche et vous avez des chaînes qui arrivent, Internet, et vous savez ce qui se passe au bout de la planète. Pour l'usager occidental, ça pose aucun problème. C'est un surcroît d'informations. Il est dans, ah oui, qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qui se passe là-bas. Pour le, mais ça on l'avait constaté déjà dans les printemps arabes et l'usage des portables et d'internet. Mais pour le citoyen, disons, des anciens pays qu'on appelait du tiers-monde. Mais tout est là. Je veux dire, le même monde dans lequel nous vivons tous et auquel je n'ai pas accès. C'est-à-dire que si je suis installé en Égypte, pas au Liban, parce que le Liban est une société ouverte, ou en Irak, ou au Soudan, je vois l'évolution, je vois des jeunes qui circulent, qui s'expriment. Si je veux lire les journaux chez moi, j'apprendrai rien, à part que mon chef est un immense chef. Hein. Et donc je vais sur Internet et je vois des gens qui caricaturent leur président, la parole est libre, etc. Ils circulent, et ils ont accès à des biens auxquels je n'ai pas accès, ils peuvent voyager, tout ce que je n'ai pas. Et donc l'effet multiplicateur du portable Internet est immense, immense. Hein. Nous vivons dans le même espace, mais nous vivons pas dans le même temps. Et c'est ce que révèle un peu cet accès des usagers. Enfin, c'est la révélation que peuvent avoir les usagers du Sud, si j'ose dire, très vite. Sur la question qui a été posée sur les liens politiques, effectivement, c'est la question qui se pose. On a aujourd'hui des mouvements de contestation qui, au fond, regardent leur interlocuteur en chien de faïence. Je prends le cas de l'Algérie. Contestation, nous ne voulons pas d'élection, Bouteflika va partir, il partira, il est parti, on a gagné. Et puis, les généraux algériens veulent imposer un président. Nous ne voulons pas de ce président. Résultat des courses, le 12 décembre, on a eu un président. Qui a voté pour lui, on ne sait pas. Certainement que les urnes ont voté toutes seules. Bon, mais il y a eu un président. Donc, que penser de ça? Les gens s'accrochent. Liban, même chose, partez. Faites un gouvernement. Ils sont partis. Ils n'ont pas fait de gouvernement. Les gens sont dans la rue et se regardent. L'Irak, c'est la même chose. Le premier ministre est parti, hein, dégagé. Mais ils n'ont pas remplacé de gouvernement. Ils font de la répression. Donc, le passage au politique peut être malheureusement un passage par la violence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qui est arrivé à Hong Kong. Philippe a évoqué cette prise d'assaut le 1er juillet, je crois, du Leshko, où les résistants ou les protestataires ou les manifestants sont entrés, ont saccagé le siège du Parlement parce que y a personne en face, personne ne répond. On est dans la rue et personne ne répond. Et en haut, on dit, ben écoutez, c'est une bande d'excités, ils vont finir par se calmer, ça va passer et ça ne passe pas. Mais rien n'arrive. Et c'est une petite anecdote, mais ça m'a fait penser à ce qui se passe aussi dans les mouvements de contestation. Ils ont saccagé le Parlement, ils sont entrés dans la buvette, ils se sont servis dans la buvette du Parlement, et ils ont fait une petite caisse, ils ont payé leur consommation. Je parle des manifestants. Au Liban, on fait du méchoui sur la place publique, on danse, etc. Et au petit matin, on balaye et on lave tout. C'est ce côté un peu spécifique de ce mouvement. Alors, c'est une bonne naïveté. Hein. C'est des gens qui sont dans la contestation, ils veulent la faire de manière transparente, dans l'honnêteté. Et en face, vous avez des gens qui ne répondent pas. Et ça va finir comment ? Malheureusement, à un moment donné ou à un autre, le passage à la violence signera le passage à la politique. Il ne faut pas le souhaiter, mais il y a des gens qui s'accrochent.
Merci, Philippe Lecor. Les technologies, parce qu'à Hong Kong, ça doit être assez particulier. Le régime chinois a quand même un contrôle très efficace sur Internet. Et puis Macao.
Oui, non, merci beaucoup. Juste une chose par rapport à ce que disait Joseph sur la violence. C'est vrai qu'on se demande si ça ne dessert pas le mouvement démocratique de Hong Kong. Il y a un côté jusqu'au boutiste, comme je disais, un petit peu voilà, sans espoir de la part de cette jeunesse hongkongaise qui finalement a décidé de passer à l'acte. Et explique et justifie cela par l'absence de possibilités face à un mastodonte comme le régime chinois. Ceci dit, depuis qu'il y a eu les élections, il y a toujours un peu de violence, mais depuis qu'il y a eu les élections largement remportées par le camp démocrate, et depuis qu'il y a eu le fameux acte pour les droits de l'homme du Congrès américain qui sanctionnerait éventuellement Hong Kong si la dictature venait à augmenter, je pense que ça a eu un effet plutôt positif pour le mouvement qui continue à un rythme un peu différent.
Mais pardon. Philippe, je voulais poser une question ici. Quand on pense à l'Irak, on est à près de 1000 morts, l'Iran 2000 morts, le Soudan il y a eu des massacres, 500 morts, Hong Kong c'est qu'on voit un mort, deux morts.
Ça a augmenté. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un manque total de transparence. Ah, oui. Il y a quelqu'un qui est tombé d'un immeuble il y a deux jours. Est-ce qu'il a été poussé? Voilà. Il y a eu un jeune qui a été tué. Donc il y a eu plusieurs morts. Il y a eu de nombreux blessés. Il y a
une dizaine.
Je dirais une dizaine, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, il y a des gens qui sont emmenés en Chine. C'est invraisemblable quand on connaît Hong Kong, hein, ce qui se passe depuis quelques mois. Et donc, le courage de ces jeunes manifestants est tout à fait stupéfiant. Au sujet de la technologie, justement, ceux qui se souviennent de Hong Kong dans les années 80 savent que les premiers téléphones portables venaient de Hong Kong. Et à l'époque, ça faisait sourire quand on venait en France avec un téléphone portable qui est fabriqué à Hong Kong ou d'ailleurs dans le sud de la Chine. Donc, si vous voulez, la technologie, ils connaissent. Mais il y a effectivement un paradoxe incroyable, c'est le fait qu'en Chine, la bulle Internet chinoise, elle est différente d'Internet dans le reste du monde. Et Hong Kong, de par son régime spécial de 50 ans, j'ai pas donné la date, mais qui durera en principe jusqu'en 2047, a le droit d'utiliser des médias sociaux, disons occidentaux, Facebook, Twitter, Telegram, etc. Et Dieu sait s'ils les ont utilisés. Et ils continuent à les utiliser. Moi qui regarde ça de près, ils ont pu se servir de tous ces outils pour se réunir, pour se disperser également, à travers des langages de jeunes, mais aussi un peu technologiques que les autorités ne comprennent pas toujours. Et heureusement pour eux. Pour Macao, que dire? Les 20 ans de rétrocession de Macao, l'anniversaire des 20 ans ont été célébrés le 31 décembre 2019, donc il y a à peine deux semaines, en présence de Xi Jinping. Les dirigeants de Macao sont plus ou moins les mêmes depuis toujours, c'est-à-dire autant il y a eu cinq chefs de l'exécutif à Hong Kong. Autant c'est la même famille, le père et le fils depuis, c'est presque une tradition impériale à Macao depuis, que Macao est également devenue une région administrative spéciale, mais deux ans après Hong Kong. Et en gros, si vous lisez la propagande chinoise, elle vous explique que Macao est le bon élève alors que Hong Kong est le mauvais élève. C'est-à-dire que les Hongkongais sont des ingrats qui ont tout eu, qui ont eu le droit de travailler en Chine, qui ont eu le droit, qui ont eu toutes les libertés, etc. Alors qu'à Macao, au contraire, ce sont des bons petits soldats. J'ajoute que la Chine également a su tisser des liens avec l'ancienne puissance coloniale de Macao, le Portugal, en investissant énormément et en favorisant une certaine fluidité entre le Portugal et la Chine dans les deux sens, sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais qui également n'est pas du tout le cas entre Hong Kong et la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne évidemment a des engagements et n'a cessé de mettre la Chine face à ses responsabilités, face à ses textes qui ont été signés par le gouvernement chinois en 84 notamment.
Merci. Une deuxième série de questions.
Merci. Oui. Donc concernant l'Amérique latine, vous n'avez pas du tout évoqué le cas du Venezuela. Sachant que la contestation, que je sache, était quand même assez bien organisée politiquement. Mais visiblement, je crois que vous n'en avez pas parlé.
Si vous pouvez faire passer le micro à votre droite, voilà.
Oui. Et puis, il y a une question, moi, madame. Je voulais juste vous demander si vous avez envie de nous parler des contestations en France. avec votre regard international. Et par ailleurs, est-ce que le fait que ces mouvements sont menés par des jeunes, il n'y a pas aussi une question de sens, de modèle, de société et de projection de l'avenir?
Monsieur?
Entre le petit rocher de Hong Kong attaché à ses libertés négociées et qui montre une capacité modeste, certes, mais de résistance, et l'énorme mastodonte chinois sous contrôle renforcé, peut-il, à votre avis, se produire, à terme bien entendu, un phénomène de diffusion de ces aspirations manifestées à Hong Kong sur le continent chinois? Peut-on prévoir une évolution à partir de ce qui se passe à Hong Kong?
Philippe Lecor, je vous propose de commencer par cette question, puisque c'est dans la suite de ce que vous veniez d'évoquer.
Oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est vraiment un sujet capital, sachant que on vit actuellement en Chine une phase de répression sans précédent depuis les événements de Tiananmen. Et donc, que ce soit à travers ce qui se passe vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des Églises d'ailleurs, vis-à-vis de la presse, des dissidents, et des médias qui sont effectivement, enfin, des médias sociaux, hein, sont entièrement sous le contrôle du parti. Donc effectivement, Hong Kong qui jouit d'une liberté de la presse, qui peut critiquer le régime, non seulement son gouvernement propre, mais aussi le régime chinois dans son ensemble, effectivement bénéficie d'avantages incontestables. Alors il y a des liens entre Hong Kong et le sud de la Chine. Il y en avait beaucoup à l'époque où les Hongkongais ont finalement aidé à réaliser le miracle chinois, dont on nous a, je dirais, passez-moi l'expression, mais rabattu les oreilles, pendant 30 ans, le miracle chinois, qui aujourd'hui, c'est toujours, l'économie chinoise est toujours, disons, positive, elle avance toujours, mais il y a aussi une sorte de renfermement de la Chine, notamment par rapport aux investisseurs étrangers, etc. Donc le problème, c'est que, comme je disais, les Hongkongais sont perçus par la majorité de la population chinoise un petit peu comme des enfants gâtés. En même temps, moi qui étais en 89 sur la place Tiananmen, je me souviens aussi du rôle qu'ont joué les Hongkongais à Pékin. Et donc, je crois qu'il y a une certaine solidarité. Alors certes, 30 ans, c'est quand même long. C'est plus d'une génération. C'est presque les parents des Hongkongais aujourd'hui, ou les grands-parents, qui ont participé un petit peu au mouvement démocratique de 89, de manière, je dirais, latérale. Hein, c'est pas eux qui étaient sur la place Tiananmen, mais... voilà, c'est un petit peu difficile, si vous voulez, de voir le mouvement de Hong Kong faire tache d'huile en Chine. Ce qu'on sait, c'est que en Chine du Sud, les gens regardent les télévisions de Hong Kong, ils ont accès à un certain nombre d'informations qui ne sont pas diffusées, je dirais, dans la totalité des provinces chinoises. Donc les gens en parlent, mais si vous voulez, là en fait on pose le problème de ce qui va se passer en Chine, et là je n'ai pas ma boule de cristal. Il est clair qu'il y a un certain nombre de lettrés, j'emploie ce terme à dessein, mais de gens qui ont fait des études, qui sont parfois allés à l'étranger, qui parlent des langues étrangères, qui comprennent le monde. Pour en revenir au somewhere et au anywhere, il y a aussi en Chine des gens qui partout, c'est l'expression de David Goodhart, par rapport aux gens qui sont quelque part. Donc le problème, c'est qu'évidemment en Chine, il y a une grande majorité de quelque part, de gens qui ne sont pas sortis de leur village, ou en tout cas de leur région, de leur pays, alors que les Hongkongais, eux, sont tous des partout, puisqu'ils ont accès à ces médias sociaux. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que effectivement on va rentrer dans une phase un petit peu plus libérale, mais je prends énormément de pincettes en disant cela, parce que le régime est un petit peu... il lutte pour sa survie, le parti lutte pour sa survie, et donc si on lâche du lest dans des territoires comme Hong Kong, enfin c'est le seul d'ailleurs pour lequel on pourrait éventuellement lâcher du lest, ça sera jamais le cas dans au Xinjiang ou au Tibet, je pense qu'il pourrait y avoir des risques en matière de politique intérieure.
Merci. Joseph, tu avais évoqué l'Amérique latine à travers le Pérou, alors la Bolivie, le cas du Venezuela.
Alors, on pose la question du Venezuela. Merci de me la poser parce qu'effectivement, j'aurais bien voulu en parler, mais c'est Monsieur Poutine qui m'a interdit de poser la question. Non, j'avais peu de temps effectivement pour l'évoquer. Pourtant, c'est un cas type. Hein, je veux dire, un des pays les plus riches du monde, une contestation, un rejet de Chavez par Maduro interposé, la continuité remise bolivarienne remise en question. Et jusqu'à maintenant, effectivement, chaîne de faïence. Et ce qui complique les choses, c'est que M. Poutine a décidé d'intervenir aussi pour aider le régime de M. Maduro. Alors, c'est un cas dramatique, hein, parce que non seulement il n'y a pas de réforme politique, il n'y a pas de liberté, mais vous avez un pays, c'est un peu le cas de toute proportion gardée, de l'Algérie, immensément riche, le Venezuela, qui s'est constitué pendant des années un matelas de réserve, sixième producteur de l'OPEP. En 2016, 2,3 millions de barils jour. En 2016 aussi, parce qu'on ne dispose plus de chiffres, il passe devant l'Arabie Saoudite, le Venezuela. 300 milliards, 296, quelque chose. 300 milliards de barils de réserve dans le sous-sol. 300 milliards au rythme d'extraction de 3 millions jour. Mais on a 300 milliards, calculez le nombre d'années. Ça va au-delà de 120, on approche les 150 années. Et voilà un pays qui est effectivement dans la contestation qui ne passe pas. Ça, c'est un cas dramatique. Pour répondre à la deuxième question très rapidement, effectivement, c'est intéressant de regarder en tant qu'internationaliste une situation interne comme celle des Gilets jaunes. Et là, la comparaison est intéressante. Elle est intéressante parce qu'il y a de la protestation. Souvent on dit que les mouvements, je ne suis pas tout à fait d'accord, que les mouvements de contestation ne sont pas revendicatifs, mais ils sont expressifs. Ils expriment un malaise, mais quelle est la revendication des Gilets jaunes? Est-ce qu'on a une liste de revendications? Et à chaque fois le pouvoir dit, mais dites-moi ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut, vous avez des leaders, on peut discuter avec eux. Refus total. Quelles sont vos revendications? C'est parti à partir de l'augmentation du fuel, du diesel. Et il n'y a pas de réponse. La similarité, on peut la continuer aussi, à la fois par le mot d'ordre, mais qui a échoué, le dégagisme. À un moment donné, vous avez entendu du Macron démission, ce qu'on entend partout dans toutes les contestations, et puis ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est dans un régime démocratique qui a des institutions, le suffrage universel fonctionne, le respect du processus électoral. Donc c'est quelque chose qui ne pouvait pas aller très loin très longtemps. Et effectivement, c'est retombé. Donc là aussi, alors on arrête la similarité pour essayer de voir, ou les similitudes, pour essayer de voir ce qu'il y a de spécifique. Et ce qu'il y a de spécifique, c'est la France coupée en deux. La ville, la périphérie, et au-delà de la périphérie, la nébuleuse où il n'y a plus de services publics. Et là, il y a un déficit de services publics, donc un déficit de citoyenneté effective. Là où vous avez accès à l'hôpital, je n'ai pas accès, là où, etc. Mais il y a une possibilité, quand on voit aussi la réponse du gouvernement, la capacité que n'ont pas d'autres pays de lâcher beaucoup d'argent. Hein, le budget, le déficit budgétaire va se creuser avant 2025. On ne voit pas d'équilibre, hein. Mais effectivement, nous avons les moyens de répondre à des demandes légitimes. Et donc sur la santé, sur la périphérie, sur en essayant donc de désenclaver une France qui est totalement enclavée, enfin la France périphérique, hein, et périurbaine, là il y a des moyens. Et donc nous sommes plutôt dans l'invention d'une démocratie qui combine la participation et la représentation. C'est une approche spécifique française avec la possibilité de répondre, hein, peut-être partiellement, mais largement, hein, mais partiellement, parce qu'on ne peut jamais répondre à tout, à des demandes grâce à des politiques publiques et des politiques économiques, ce que n'ont pas la plupart des pays qui de la contestation du Sud.
Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette soirée. Une dernière question, pardon pour toutes les frustrations que cela va créer. Attendez, on vous passe un micro.
pensez-vous du retournement de la population iranienne suite à cet avion qui a été abattu ?
Joseph Maïla.
Oui, merci de cette question, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de l'Iran, qui est un pays qui vit sous une dictature absolument terrible. Hein. 11 février 79, 2019, la révolution islamique, et beaucoup de gens pensaient que l'islamisme était mort, et l'islamisme ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, on sait que le régime est contesté. Quelques semaines avant qu'il y ait l'assassinat de Soleimani, la liquidation de Soleimani, du général, et qu'il y ait des mouvements de masse absolument incroyables dans la rue, il y avait une répression terrible. Hein. Les femmes, les jeunes, une diaspora aussi, on a oublié le rôle que peuvent jouer les diasporas. Il y a 3 télévisions qui parlent l'iranien dans les États, en Californie, New Mexico, en Arizona. Il y a une immense communauté iranienne. Les photos sont diffusées, les images, les Iraniens de l'intérieur ont un autre son de cloche grâce à ces paraboles que les mollahs appelaient pas les antennes paraboliques, mais les antennes paradiaboliques. Hein, parce que le diable s'exprimait à partir des États-Unis. Et puis, donc, répression terrible. Hein. J'étais en Iran et il y a quelque temps, et on sentait que la population n'en pouvait plus. Les sanctions ont pris, les sanctions américaines, les sanctions onusiennes. Le prix du poulet a quadruplé, le prix du riz a triplé. Ce sont des choses qui sont des indicateurs extrêmement intéressants. L'Iran, qui est un exportateur de pétrole, est obligé d'importer du pétrole parce qu'il exporte du brut pour importer du raffiné. Parce qu'on n'y a plus de quoi faire fonctionner les raffineries, parce que les pièces de rechange manquent, etc. Une société qui est vraiment au bord de... Et puis l'assassinat du général Qassem Soleimani a déclenché un mouvement de nationalisme absolument extraordinaire. Les gens se sont ressoudés. Moi, j'ai été le premier surpris, je n'ai pas toutes les clés d'explication. Tout le monde s'est retrouvé nationaliste. Je vous disais, cette reconstruction des identités nationales, comme on se retrouve beaucoup plus citoyen français quand on veut s'occuper des plus marginalisés et des démunis. Hein, si les gilets jaunes peuvent représenter cette... Là, il y a eu une espèce de fierté nationale. Et quelques jours après, enfin il y a 3 jours, 4 jours, après 2 jours après l'aveu de cette erreur monumentale qui a consisté à abattre un avion de ligne, les gens sont descendus dans la rue, la fierté était cassée, hein, et l'incompétence est revenue. Ce sont des incompétents, ce sont des dictateurs, comment on fait une affaire comme ça? J'ai honte d'être iranien. Mais il y a 2 jours, j'étais très fier d'être iranien. Alors, comment on explique ces mouvements de foule? Honnêtement, si quelqu'un a une explication, comme ça, en 48 heures, ce retournement... Et donc, on a repris, à l'occasion de cette protestation contre cette erreur fatale et funeste, les critiques contre le régime ont repris.
Merci, merci en tout cas pour ces éclairages. Alors, avant de nous séparer, 3 brèves annonces. D'abord, notre prochain mardi d'éthique publique aura lieu le 4 février et il sera consacré aux questions bioéthiques, comme c'est un peu la tradition désormais au mois de février. Ensuite, n'hésitez pas, en l'absence de son rédacteur en chef, je vais faire un peu de publicité pour Études, donc n'hésitez pas à vous reporter au numéro de la revue Études de janvier avec l'article de Joseph Maïla et de février avec celui de Philippe Lecor pour approfondir ce qui a fait l'objet de notre rencontre de ce soir. Et enfin, des urnes vous attendent à la sortie, non pas pour voter à l'algérienne, mais pour vous permettre de contribuer à l'organisation de ces mardis d'éthique publique. Et un très grand merci à nos 2 orateurs de ce soir.